Il est 6h20. Zola, Hugo et Jaurès seront-ils bientôt de nouveaux voisins au Panthéon? Rimbaud et Verlaine pourraient les rejoindre. En tout cas, une pétition a été lancée pour réclamer cet hommage suprême. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, soutient l'idée. Et vous aussi, Jean-Luc Barré, vous en êtes même à l'origine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, éditeur, historien. Quand on lit votre pétition, on se demande si vous voulez reconnaître le talent de ces deux poètes ou le fait qu'ils étaient homosexuels.
Ah non, je crois d'abord c'est le fait que ce soit de grands poètes. Vous savez, il n'y a pas de grands poètes au Panthéon, il y a Victor Hugo, mais pour des raisons plus politiques. Or, c'est quand même le temple de ceux qui ont marqué d'une manière ou d'une autre l'histoire et l'histoire de notre sensibilité. Ils nous accompagnent depuis toujours, finalement, Rimbaud et Verlaine depuis l'école, etc. Donc, ils occupent une place centrale. C'est d'abord deux très grands poètes. Il se trouve qu'à un moment de leur vie, ils ont une liaison amoureuse et qu'ils sont devenus un peu iconiques. De ce point de vue-là, ils sont devenus un peu le symbole d'un couple homosexuel très singulier, très original. Ça n'a rien à voir avec les couples homosexuels d'aujourd'hui. C'est une relation très tourmentée. Donc, c'est plus deux grandes figures nationales qu'il s'agit d'honorer dans un lieu où ils ont, à mon avis, toute leur place. Je vois pas pourquoi la poésie n'aurait pas sa place au Panthéon.
Et est-ce que ça leur correspond, le Panthéon? Le président de l'Association des Amis de Rimbaud, Alain Tourneux, lui trouve que les réunir pour l'éternité est une très mauvaise idée. D'abord parce qu'après s'être aimé follement, comme vous l'avez dit, ils sont détestés ensuite.
Oui, vous savez, j'ai lu quelque chose de très drôle sur un site, quelqu'un qui écrivait, qui disait, mais enfin, est-ce que vous imaginez de vous retrouver pour l'éternité avec votre ex tout ça n'a pas de sens. Il y a une dimension symbolique. D'abord, l'idée est venue quand nous sommes allés avec Frédéric Martel et un autre ami à Charleville-Mézières, quand nous avons vu l'état de cette tombe. La symbolique même d'une tombe dans laquelle Rimbaud se trouve dans une ville qu'il avait voulu quitter à tout prix et fuir, en compagnie notamment de son beau-frère, qui s'appelait Paterne Berrichon, qui le haïssait. Donc, comme s'il était un peu prisonnier de cette famille, et quand nous sommes allés sur la tombe de Verlaine, qui est très négligé, qui est très oublié au cimetière des Batignolles, nous sommes dit il y a quelque chose à faire pour eux, presque les délivrer d'une certaine manière. Alors évidemment, on peut en rester là, mais l'idée même de les réunir, c'est évidemment, ça bouscule, ça dérange un peu les universitaires, ça va déranger les Rimbaldiens, ça aurait peut-être dérangé même la famille s'il y avait eu encore une famille. Il n'y a pas de descendants. Mais c'est pas tellement ça. Nous qui sommes des Rimbaldiens, qui sommes des admirateurs de Rimbaud, on estime que cet hommage national serait une manière de célébrer la poésie, la jeunesse. Je l'ai presque dit une chose, c'est que si on les enferme au Panthéon, ils s'évaderont d'une manière ou d'une autre, vous voyez ce que je veux dire. Ils sont pas là pour être prisonniers de quoi que ce soit. Mais il y a l'idée de les réunir, quelque chose de très fort, de très beau, de très poétique au fond, de très rimbaldien, de très verlainien.
Alors, j'en reviens toujours à ce président de l'Association des Amis de Rimbaud, mais il y en a d'autres. Dans le Figaro, ce matin, il y a une tribune d'Étienne de Montetti qui va dans le même sens, qui disent ils sont trop libres pour le Panthéon, et notamment Rimbaud qui aurait sans doute détesté l'ordre établi, et cet hommage lui aurait pas plu.
Oui, mais écoutez, est-ce que Jean Moulin n'était pas un homme libre? Est-ce qu'André Malraux, même s'il a été ministre général de Gaulle, il était un résistant, un révolutionnaire, etc. Il y a beaucoup de gens libres au Panthéon, donc c'est pas du tout le problème. Et puis on se met à la place, on se dit ils auraient pas aimé. Qu'est-ce qu'on sait? Peut-être il y a quelqu'un qui m'a dit aussi une chose très très forte et très vraie. Quelqu'un m'a dit, mais ce qui aurait été rimbaldien, c'est de démolir le Panthéon. Alors peut-être, en effet, on peut aussi imaginer que ce qui est rimbaldien, c'est de démolir le Panthéon. Mais c'est peut-être aussi rimbaldien de faire la nique un petit peu à tous les puissants et à tous les notables, en disant, ben moi aussi j'ai ma place finalement dans ce lieu. J'ajoute une chose importante, c'est que l'année prochaine, on va fêter le 150e anniversaire de la Commune. Et de ce point de vue-là, il y a aussi le rôle de Verlaine dans la Commune et le fait qu'il a payé pour cela, qui peut être aussi pris en compte. Écoutez, je ne sais pas si Rimbaud aimait ou pas, bien fort est celui qui aujourd'hui peut dire comment aurait réagi Rimbaud. Moi, je pense qu'en tout cas, c'est un acte rimbaldien.
Vous dites que la tombe de Rimbaud à Charleville-Mézières est pas super, hein, voilà, elle est... Un de plus au Panthéon, ça change pas grand-chose pour la notoriété de ce lieu. En revanche, un de moins à Charleville-Mézières, la ville va perdre gros.
Oui, on avait dit ça, vous savez, quand Alexandre Dumas a été inhumé, on a dit, c'est la ville d'Arcotré, je crois, perdre gros. Écoutez, que le jour où nous y sommes allés, d'abord, il n'y avait personne sur cette tombe. Je pense pas que les gens se précipitent à Charleville-Mézières pour aller voir la tombe de Rimbaud. Je pense qu'au contraire, il est très délaissé là-bas, très oublié, et qu'encore une fois, c'est pas forcément un lieu où il aurait aimé reposer pour l'éternité. Et surtout, avec cet entourage. C'est un homme qui a fui sa famille, qui a été un peu persécuté par sa famille, qui ensuite, d'ailleurs, sa sœur, son beau-frère ont quand même beaucoup pesé pour presque détourné parfois le sens un petit peu de son œuvre. Et donc, moi, j'ai senti, c'est une intuition que nous avons eue comme ça, c'est une intuition d'admirateur. On s'est dit, il est prisonnier là-bas.
Et encore une fois, je vous repose la question, mais pourquoi pas tout seul, puisque vous êtes rimbaldien, que voilà, vous avez l'air d'adorer ce poète.
On peut imaginer tout seul, en effet, mais il se trouve que c'est un couple aussi. C'est un couple, à un moment donné, vous m'avez posé la question de la question homosexuelle.
Il n'était pas militant homosexuel.
Non, mais il n'y a même pas d'acte militant dans ce que nous faisons aujourd'hui. Il n'empêche que dans la symbolique, si vous voulez, si un couple, d'abord, au Panthéon, il y a d'autres couples. Il y a trois autres couples, dont Simone Veil et Antoine Veil. Il y a aussi Pierre et Marie Curie. J'ai posé la question, pourquoi il n'y aurait pas demain un couple homosexuel? Bien sûr, ça compte. Alors la question, c'est est-ce qu'ils sont ensemble? On nous a posé la question, est-ce qu'il faut les mettre ensemble? Non, on peut dire en même temps. Je vous signale qu'en même temps est un mot rimbaldien.
Ah bon?
Absolument. C'est Emmanuel Macron a reconnu qu'il l'avait trouvé dans l'œuvre de Rameau. Donc, en même temps, oui, en même temps, un couple homosexuel symbolique de deux êtres qui se sont follement aimés, qui se sont aimés brièvement, tout ça s'est terminé tragiquement, comme souvent les passions humaines. Il n'y a rien de conventionnel, en effet, dans ce couple-là. Et je pense qu'il n'y a rien non plus de conventionnel dans le fait d'honorer de grands poètes. Ça serait totalement nouveau. Ça ne s'est jamais fait. Et encore une fois, il y a eu Victor Hugo, c'est tout. Pourquoi pas Baudelaire demain? Pourquoi pas de grands poètes? Je pose la question, pourquoi pas de grands poètes, uniquement des grands savants ou des hommes politiques? C'est pas un lieu de notables, contrairement à ce qu'on croit. Voltaire et Rousseau sont au Panthéon. Et ce ne sont même pas des notables.
Une panthéonisation, ça se fait pas du jour au lendemain. Quelles sont les étapes? Qui donne son feu vert
Déjà, le soutien.
Le fait qu'il y ait la ministre de la Culture, voilà. C'est déjà pas mal.
Écoutez, c'est exceptionnel le soutien du ministre de la Culture. Moi, elle m'a appelé lundi matin. Je sais qu'elle voulait me parler. Et spontanément, elle m'a dit, avec cet enthousiasme qui la caractérise, elle m'a dit « je signe ». Alors, bon, depuis, j'ai vu qu'elle disait « je soutiens ». Je pense qu'à l'Élysée, on a dû lui dire. Et ça se fait pas tout à fait qu'un ministre signe une pétition. Mais c'est la première fois qu'on voit ministre de la Culture s'engager de cette manière. Je précise d'ailleurs qu'il y a d'autres ministres de la Culture qui sont engagés, Jacques Lang, etc. Donc, ça se fait comment? C'est le soutien du ministre est très important. C'est évidemment la décision personnelle du président de la République qui s'entoure en général de conseils, etc. Voilà. Donc, je pense que peut-être ça créera un certain embarras. Mais si ça crée déjà un débat, c'est bien. Et puis, je trouve assez frais, finalement, cette idée aujourd'hui. On parle de ça, on parle un peu moins d'autre chose.
Et puis, il pourra pas dire non à celui qui a inventé le en même temps.
C'est ça. Moi, je pense qu'on a un président Baldien, en fait.
Merci beaucoup Jean-Luc Barré d'être venu ce matin dans notre studio, auteur, éditeur, historien et donc à l'origine de cette pétition pour panthéoniser Rimbaud et Verlaine. Il est 6h28.